mal au Cachin oriental. J'ai réussi totalement cette idée.
Moi, j'ai été une diplomatie au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de participer à ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. De nombreuses stations de radio ainsi que certaines chaînes de télévision ou autres journaux en République démocratique du Congo ont été interdits d'émettre ou de paraître ces 5 dernières années par les autorités congolaises ou autres services de sécurité à travers le pays. Au nombre de ces médias, la RLTV, Canal Future, RTC, CCTV et autres, pourtant, pour l'Observatoire des médias congolais OMEC, seul le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC est habilité à retirer la fréquence à une station de radio ou une chaîne de télévision ainsi que l'autorisation de paraître à un tabloïd. Quel regard portez-vous sur les mécanismes de régulation des médias mis en œuvre en République démocratique du Congo? Nous ouvrons les débats, vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 63 15 pour votre participation en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde, Julie Pesabongonda et Piro et la Mégis sont à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Le constituant de la République au chapitre 2 de la Constitution relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, dans son article 112, stipule qu'il est institué un Conseil supérieur de l'audiovisuel et de communication doté de la personnalité juridique. Il a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication des masses dans le respect de la loi. Il veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. Mesdames et messieurs, il faut encore merci de votre fidélité à Radio Capi. Nous avons en ligne Polydor Mouboyaï, président de l'OMEC, attendez par là, Observatoire des médias congolais. Bonjour, président. D'entrée de jeu, Monsieur Mouboyaï, quel regard peut-on porter sur les mécanismes de régulation des médias mis en œuvre en République démocratique du Congo?
Ben, il faut dire que les mécanismes de régulation répondent à une demande de la presse elle-même. Hein. Cette demande remonte aux années 90. Rappelez-vous, lors des États généraux de la communication que nous avions organisé en 1995, nous avions à cette occasion-là proposé la création d'un Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Nous avions même élaboré des textes qui ont abouti plus tard par l'adoption de la loi qui régit jusqu'à ce jour la liberté de la presse, la loi de 96, et par la suite, cette idée a été reprise par le dialogue intercongolais, et ça a débouché sur la haute autorité des médias qui est devenue aujourd'hui le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Cette structure a été mise sur pied tout simplement parce que, comme je le disais, c'était une demande des médias eux-mêmes, des professionnels des médias, tout simplement parce qu'on avait constaté qu'il y avait trop d'usurpation de pouvoir, non seulement d'usurpation de pouvoir, il y avait trop d'excès de pouvoir. N'importe qui se permettait d'intervenir dans les champs médiatiques pour empêcher la population d'accéder à l'information alors que cette information lui est garantie par la Constitution en son article 24. Donc, cela a été fait, le Conseil supérieur a été installé et nous étions en droit d'attendre qu'à partir du moment où ce Conseil était installé, que les choses aillent normalement, fonctionnent normalement et que les médias ne puissent pas être sanctionnés par des structures autres que celles prévues par la loi. Donc le problème que nous avons aujourd'hui, c'est ce problème-là de constater que dans la chaîne de prise de décision pour frapper les dérives éventuelles au niveau de l'exercice de la profession d'informer, il y a des intrus. qui interfère et qui empêche justement que la liberté de la presse soit exercée conformément aux prescrits de textes fondateurs de notre métier.
Oui, je crois que le CESAC, c'est quand même c'est une institution d'appui à la démocratie qui peut être considérée aussi comme un service de l'État. Alors aujourd'hui, quand l'État va jusqu'à retirer la fréquence à une station de radio, par exemple, ou encore à une chaîne de télévision, je crois que c'est toujours constitutionnel.
Non, ça ne peut pas être constitutionnel. Vous savez, nous avons un problème dans notre pays en ce moment ici. C'est qu'il y a la loi qui porte fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, mais concomitamment, il y a aussi la loi portant exercice de la liberté de la presse. Donc, quelque part, vous avez des responsabilités, les mêmes responsabilités qui sont reconnues au CESAC, et qu'on retrouve toujours dans la loi portant exercice de la liberté de la presse, ce qui fait quelque part une sorte de
chevauchement
qui pourrait justifier l'intervention des tiers dans la répression des dérives au niveau des médias. Mais encore une fois, je voudrais insister là-dessus, même lorsqu'on se réfère à la loi portant exercice de la liberté de la presse dans notre pays, les mesures qui sont prises ne sont pas conformes, même à ce texte-là. Donc, même dans le cas de conflit de texte, on ne peut pas se référer à la loi de 96 pour justifier les décisions qui sont prises. Parce que lorsque vous voulez rentrer à 96, vous allez retrouver que la sanction peut être prise contre les médias, notamment la suspension, l'interdiction. Cette sanction ne peut être prise que par la justice. Donc, par un autre organe, c'est ce que dit la loi de 1996. Seule la justice, seul le tribunal de grande instance peut prendre cette mesure-là d'interdiction. Mais ce que nous constatons, c'est que l'interdiction, elle est prononcée par des personnalités autres que des personnalités relevant du pouvoir judiciaire. Et là, se situe le problème. Il y a donc une sorte de confusion, il y a là un effet de pouvoir, c'est à cela qu'il faut mettre fin. Bon, évidemment, on dira, il faut d'abord évacuer l'une des lois, l'une des lois, et rester seulement avec un seul texte, mais même dans le cas de la coexistence de deux textes, les mesures qui sont prises ne peuvent être prises que par les organes judiciaires.
Alors aujourd'hui, c'est vrai, encore vos propos, c'est comme si vous rejoignez certains auditeurs et certains observateurs qui pensent que la régulation des médias à RDC est aujourd'hui politisée.
À ça, il faut le dire, mais il faut le dire parce que lorsque un certain nombre de décisions sont rendues publiques, lorsqu'on pose la question au CESAC, le CESAC n'est même pas informé, le CESAC subit les mesures comme nous. Et ça, ce n'est pas bon pour la crédibilité d'une structure aussi importante que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. On ne devrait pas mettre cette structure-là devant les faits accomplis. Donc, en faire une sorte de caisse d'enregistrement qui accompagnerait des mesures prises ailleurs. Le CESAC doit s'assumer, le CESAC doit assumer son rôle. Mais encore faut-il qu'on lui laisse les mains libres. On doit permettre à cette structure de faire son travail et non y interférer tout le temps. Ce n'est pas bon pour la démocratie, ça ne permet pas à la démocratie d'oxygéner la démocratie, ça ne permet pas à la presse de bien fonctionner et ça donne de la République une mauvaise image parce que vous savez, lorsque les décisions sont prises ailleurs et l'interprétation tout de suite, c'est que dans le pays, il n'y a pas la démocratie est galvaudée. Donc c'est cela qu'il faut éviter. Il ne faut pas toujours donner une mauvaise image de la République à l'extérieur en prenant, en s'ingérant dans des domaines où on n'a pas le droit d'interférer, c'est ça.
Oui, alors que vous inspire, avant d'ouvrir les standards, une toute dernière question, Monsieur Polidor, que vous inspire la démarche entreprise par le CESAC de faire la médiation auprès des autorités pour au fait la réouverture de certaines chaînes de télévision, notamment la RLTV, le canal Futur et RTC et CCTV. Est-ce que vous pensez que cette médiation pourrait donner les résultats? D'autant plus que, comme vous l'avez dit, le CESAC semble ne pas avoir le pouvoir répressif.
Non, le pouvoir, le CESAC là, le pouvoir là, mais c'est vis-à-vis des médias. Je pense qu'on devrait laisser le CESAC faire son travail. La décision que le CESAC a prise de faire une médiation, c'est-à-dire d'aller rencontrer ceux qui ont pris des mesures qui sont aujourd'hui décriées, et leur faire comprendre qu'ils n'auraient pas dû agir tel qu'ils l'ont fait. Je pense que c'est bon, ça permet de sauver les apparences et finalement de permettre aux uns aux autres de comprendre jusqu'où vont leurs droits, et à partir de là, nous pensons que les choses pourront revenir dans l'ordre. Si on comprend le CESAC, ce serait une excellente chose, parce que nous allons vers une période assez agitée avec l'organisation des élections. Il faut que le CESAC se retrouve ses pleins droits.
081-890-6315 pour votre intervention en direct. Nous vous gardons en ligne, Polydor Mouboyaï.
Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capifoot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081-890-6489.
Alors, nous avons le premier auditeur en ligne, Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour, Franck.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à notre invité, monsieur Polydor.
Quel regard portez-vous sur les mécanismes de régulation des médias mis en œuvre en RDC après avoir suivi notre invité tout à l'heure?
Merci beaucoup pour la parole. Je crois qu'il a déjà brossé l'essentiel de ce qui doit être dit. Moi, je trouve que le débat d'aujourd'hui doit avoir deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect conceptuel et existentiel. On chercherait à voir, à comprendre le fondement juridique et le maître de ce sac. Vous l'avez aussi déjà rappelé en citant l'article de la Constitution. Puis le deuxième aspect, c'est le côté pratique, pragmatique, disons que l'effectivité ou la fonctionnalité de ces structures, comment elles fonctionnent. Est-ce que ces structures fonctionnent librement ou il y a des interférences politiciennes quelque part? Nous savons que la régulation des organes de la presse dans chaque pays a souvent eu du chemin à faire. Et chez nous, ce chemin est encore épuisé car il émane de nos réflexes et attitudes existentielles et sociologiques. Donc, la liberté de la presse dans son ensemble est toujours soumise à un certain nombre de conditionnements juridiques, culturels, sociologiques, éthiques et déontologiques. Donc, de ce côté-là, on sait que ça fonctionne comme ça. Mais le problème qui se pose ici chez nous, c'est la politisation, la prise en otage de certains organes de la presse. Donc, c'est comme si les médias, au lieu d'informer, ça risque de devenir seulement des caisses de résonance pour certains groupes de citoyens. Et là, au lieu d'informer, donc les médias n'informent plus convenablement parce que les journalistes, il y en a qui ne travaillent plus librement selon les normes éthiques et déontologiques, mais il y en a qui travaillent, qui émettent des émissions seulement en vue de répondre aux directives reçues de tel ou de tel. Alors, pour un pays qui a encore besoin de se restituer au niveau de sa démocratie, ça pose problème. Et nous savons qu'il y a trop de choses en coulisses qui se passent, ceci, cela. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes seulement appelés de dire, de constater, est-ce que cette structure fonctionne convenablement sans interférence ou pas. Et s'il y a des interférences politiciennes, nous devons nous poser des questions, ça vient de qui et pourquoi. Je crois que c'est ce qui serait très important, parce que à voir un peu comment ça se fait là, quelque part on se dit démocrate, mais en réalité, c'est encore comme une forme du totalitarisme. Et on ne fait que se poser des questions. Pourquoi on se dit démocrate, on a des chaînes de télévision par-ci, par-là, mais il y a des chaînes qui ne mettent que seulement pour disqualifier un groupe de leaders, un groupe de figures, des hommes politiques. Et quelque part, là, ça blesse un peu. Donc, c'est pas
on informe quoi
et envie de quoi.
Oui, Franck, vous êtes un des observateurs. Qu'est-ce que vous, vous avez constaté, disons, sur le terrain? Est-ce qu'aujourd'hui, les sanctions... disons accordé à des différentes chaînes de télévision ou encore autres stations de radio sont-elles fondées ou disons elles peuvent être classées par vie des sanctions politiques? Je prends les cas par exemple de la RTV, Canal Futur, RTC, CCTV et autres.
Monsieur le journaliste, vous savez que quand quelqu'un argumente, il y en a qui se servent du sophisme au point de faire des 6, 9 et des 9, 6. Donc, les raisons peuvent être présentées, les déficits peuvent être constatés, mais seulement quand on présente les raisons pour la suspension d'une chaîne de radio ou de télévision, ça dépend maintenant de l'esprit de la personne qui a le monopole de la décision. C'est à ce niveau-là que moi, personnellement, je parle de la politisation, parce que quand, par exemple, un journaliste commet des abus ou un présentateur des émissions, je crois qu'il y a une procédure juridique, déontologique et professionnelle à suivre d'abord avant de les sanctionner. Donc moi, je ne suis pas contre les sanctions. Les sanctions doivent exister au cas où des faillites sont vraiment avérées. Donc quelqu'un qui ne répond pas aux normes déontologiques du journalisme, on doit les sanctionner, on doit les rappeler à l'ordre, on doit l'aider à comprendre que ce n'est pas de cette manière-là que ça doit se faire. Mais ce qui blesse, c'est quand on se rend compte que parfois il y a trop de politique dans la procédure des sanctions. Donc quelqu'un a fait quelque chose, au lieu de les sanctionner par rapport à la nature de l'acte, de la faute commise, on profite de cet incident-là pour frapper dur. Et il y a seulement quelque part là, démonstration du pouvoir. C'est comme la théorie du loup et de l'agneau, la raison du plus fort. C'est ça un peu ce que moi j'appelle
l'utilisation. Voilà,
donc celui qui a le monopole des décisions, il en profite pour frapper, pour faire taire, pour imposer sa loi. Et quelque part, on doit se demander... Est-ce que c'est dans ce conditionnement-là que la démocratie dont nous avons besoin à République démocratique du Congo fera vraiment son chemin normal?
Merci beaucoup, Franck.
C'est à ce niveau-là que moi, j'interviens.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne, en Autriche. Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Pierre. Bonjour, J.L. Ngombe. Bonjour à l'invité.
Vous avez la parole, Omar, après avoir suivi Franck, qui a évoqué l'aspect conceptuel et existentiel. En fait, pour lui, en tout cas, il faut faire en sorte qu'on ne puisse pas politiser les secteurs, ce qui ne fera pas avancer donc la démocratie à RDC. Quel est votre point de vue, Omar?
Merci beaucoup, J.L. des heures de Pablo Madidje. Entrée des jeux avant de soulever mon point de vue, je voudrais un peu rebondir sur ce que l'invité a dit. Il a dit que selon la loi de 96, il n'a pas la fonction administrative, il faudra directement que le tribunal fonctionne. Donc, je voudrais lui rappeler qu'en droit administratif, c'est ce qu'on appelle les privilèges du préalable. L'autorité administrative a les droits de sanctionner toute activité qui est sous son statut, pardon. Et non que la personne qui est sanctionnée, lorsqu'elle remarque l'irrégularité ou l'illégalité de la sanction administrative, peut saisir le juge pour trancher. Donc, c'est administratif que ça existe. Alors, je vais maintenant par rapport à la problématique d'aujourd'hui sur les différentes sanctions que subissent les organes de médias congolais. Nous avons beaucoup de textes JR qui visent à réglementer. Ça, c'est quoi? C'est le premier problème qu'il faut régler. Nous avons la loi de 96 sur le délit de presse. Nous avons la loi qui a été proposée par le sénateur Moutinga qui gère la liberté de presse. Nous avons le texte organisant les CSAC, nous avons le texte organisant l'UNPC. Tous ces textes ont prévu des attributions que chacun doit accomplir. Nous avons même la loi sur les télécommunications. Toutes ces lois visent une seule chose, que la liberté de presse soit une réalité en RDC. Mais malheureusement, nous continuons à constater des dérapages déontologiques. Nous continuons à constater des sanctions irrégulières dues à la confusion plurielle des textes. On constate aussi des conflits de compétences. Je voudrais vous rappeler un cas où il y a le ministre des Télécommunications qui a retiré la fréquence et le ministre des Médias a remis les fréquences. Tous deux ont fondé leur décision sur base de texte. Et moi, je pense hier, ce qui fait qu'il y ait des sanctions complaisantes ou des sanctions entre guillemets politiques, c'est que la première cause, c'est la pluralité des textes. on a plusieurs textes et qui accordent différemment des compétences à chacun. Deuxièmement, il y a la méconnaissance juridique. Si vous aimez tous ces lois, la loi a déterminé qui doit faire quoi. Pour la gestion des fréquences, c'est le ministère de la télécommunication. Pour la gestion administrative des chaînes de radio et de télé, c'est le ministère des médias. Pour l'aspect déontologique, c'est le CESAC. Pour l'aspect régularité par rapport au métier, c'est l'UNPC. Est-ce que les journalistes, est-ce que les autorités savent ou connaissent leurs droits? Parce qu'en droit administratif, la compétence est d'attribution. Avant que vous puissiez sanctionner une personne, vous devez en avoir la permission légale. Et pour finir, moi je propose, pour qu'on évite toutes ces confusions au niveau des sanctions, il faudra, comme l'invité l'a dit, que l'on puisse uniformiser les textes réglementant le média. C'est dans un même texte qu'on trouve qui fait les ministères des médias, qui fait les ministères des télécommunications, que fait le CESAC. Comme ça, tout le monde saura ce qu'il faudra faire et on n'aura plus de confusion. Car, à mon avis, la plus grande cause des irrégularités qu'on voit au niveau répressif, c'est parce qu'il y a pluralité des textes et lequel texte accorde des compétences à chacun. Deuxième chose, il faudra aussi que le média eux-mêmes puissent moraliser leurs actions. Lorsqu'on sanctionne une chaîne, il ne faut pas seulement crier à la politisation. Il faudra aussi voir comment les médias se comportent. Récemment, on vient de fermer ou de suspendre une émission qui passait sur une chaîne que je ne citerai pas le nom. Je crois que vous avez tous décrié comment cette chaîne fonctionnait dans l'illégalité, où on affiche les noms des gens, alors que la Constitution garantit la présomption d'innocence, alors qu'on montre la dignité des gens sont bafoués. Et personne n'a crié. Mais lorsqu'on sanctionne, on crée la politisation. Il faudra aussi que les médias eux-mêmes soient moralisés, conformer les actions à la loi et à la déontologie. Et enfin, il faudra que les autorités qui gèrent les médias cessent d'être politiques aussi. La liberté des presses est un des piliers de la démocratie. Il faudra sanctionner et fonder les sanctions sur base de la loi. Voilà à mon avis, JR, les causes qui font qu'il y ait des sanctions complaisantes et les petites solutions que je pourrais proposer pour endiguer ces antivaleurs.
Merci beaucoup Omar d'avoir évoqué deux aspects avant de faire des propositions. Vous avez évoqué d'abord les cas de dérapage déontologique et également les sanctions irrégulières. Alors pour conclure, vous demandez à ce qu'on puisse uniformiser le texte réglementaire des secteurs de la presse. Merci beaucoup Omar d'avoir appelé. Daniel, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour JR et bonjour à tous les amis de la radio Kapi.
Vous avez la parole, votre point de vue Daniel.
Merci JR pour la parole. JR, je voulais dire ceci, en tout cas notre pays se déclare pays démocratique, eh bien nous devons nous comporter de manière démocratique. Et pour qu'une démocratie soit vivante, nous devons avoir des dirigeants démocrates. Pas des dirigeants dictateurs, mais qui se déguisent en démocrates. Je voulais y aller hier avec des exemples très très concrets. Franck a parlé de ça, mais moi je voulais y aller avec des exemples qui sont très concrets. Je prends l'exemple de la radio Kapi qui nous donne la parole. La radio Kapi qui donne à tout Congolais la parole de pouvoir s'exprimer. Je me souviens il y a une année ou deux ans, la radio Kapi a fait passer une interview de Jean-Marie Runiga à l'époque, rebelle du M23. Eh bien, on a formulé une raison là pour suspendre la radio Kapi en alibi, mais en réalité, c'était dû par rapport à cela. Le média est là pour donner la parole à tout le monde, qu'il soit rebelle, qu'il soit opposant, qu'il soit du pouvoir, pour pouvoir s'exprimer librement en respectant le texte. Si j'ai un bon passage, qu'est-ce qui se passe? La radio-télévision Lubumbashi doit être fermée. Moi, je suivais cette chaîne-là de télévision. Et dans le temps, la radio-télévision doit passer les images du temps de Mobutu, les Sakayonka. Comment les gens dansaient pour Mobutu, comment Mobutu devenait de plus en plus célèbre, tout ça, par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Mais, par après, on a su que Dieu a été fermé. Pour quel motif? Jusqu'à présent, je ne connais pas le motif exact pour lequel cette chaîne a été fermée.
Oui, Daniel, pour la petite histoire, on sait qu'il y a plusieurs médias à Lubumbashi qui ont été fermés par les autorités. Au fait, on leur reprochait une incitation à la haine. Vous avez vu à un certain moment, les gens se tiraient à boulet rouge au travers des émissions qui étaient diffusées dans les différentes chaînes de télévision à Lubumbashi. Vous êtes là sur place, vous êtes sans ignorer, vous avez l'information plus que nous.
Non, hier, Je sais bien que les médias étaient formés et fermés. Il y avait des médias qui étaient fermés quand il y avait des conflits entre Jean-Claude Muyambo et Moïse Katumbi. Il y avait vraiment des comportements dans cela. Il y avait vraiment des...
Oui, là vous reconnaissez quand même qu'il y avait des dérapages, c'est anthologique.
Les médias ont été fermés. Mais actuellement, quand la radio-télévision a été fermée, ce n'était pas pour ces motifs-là. Parce que la radio était réouverte, elle est notée. Mais quand on a fermé, moi, jusque là, je ne sais pas les motifs pour lesquels.
Voilà, alors Daniel, aujourd'hui c'est vrai qu'on est notre invité.
Le fait que faisait passer les images.
Oui, voilà, on a compris. Daniel, si on peut aller encore plus loin. Notre invité a dit tout à l'heure ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est, il a été d'ailleurs renseigné par un auditeur, il faut uniformiser les textes réglementaires des secteurs de la presse, parce que c'est vrai, il y a certaines personnes qui ne sont pas assermentées ou qui n'ont pas droit à pouvoir réguler. Ils font ce travail parce que la loi leur donne cette autorisation. Alors, il y a déjà un désordre qu'il faut vraiment arranger pour qu'on aille vers la démocratie. Est-ce que vous partagez cet avis qui a été d'ailleurs évoqué par Omar de Kinshasa?
Bien, le texte c'est très bien, mais ce texte-là doit être appliqué de part et d'autre. Je suis pour l'application des textes d'une manière équitable selon les règles démocratiques. Ça veut dire, quand il y a des dérapages, des chaînes réputées proches de l'opposition, mais tant qu'également il y a des appareils qui proviennent des chaînes de suite proches du pouvoir, on peut encore, vous êtes sans ignorer que récemment, Bouchima, Jaffé a été par ailleurs de la FETAC, mais il semble que cette mesure n'est pas observée jusque-là.
Voilà, donc je sais pas. Alors on l'a sanctionné l'émission.
Mais il continue.
Par le FETAC.
C'est-à-dire les dernières informations, ils continuent à passer avec son émission, là, histoire du Congo, histoire quelque chose comme ça.
Voilà, merci Daniel d'avoir appelé 081-890-6315 pour votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Nous débattons sur le mécanisme de régulation des médias mis en œuvre en République démocratique du Congo. Selon l'Observatoire des médias congolais, seul le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qui est habilité à retirer la fréquence à une station des radios ou une chaîne de télévision, ainsi que l'autorisation de paraître à un tabloïd. Mais ce que nous observons sur le terrain, certaines autorités congolaises ou autres services de sécurité à travers le pays, c'est libre aussi à cet exercice. Alors, notre invité a bien passé les choses, c'est la difficulté d'interpréter les textes en tout cas existants. 081, comme je l'ai dit, 890-6315 pour votre intervention en direct.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Capi.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capi. Nous entamons la deuxième demi-heure de cette émission Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Polydor Mouboyaï, vous êtes avec nous, vous êtes là en ligne. Voilà, monsieur Polydor, vous êtes avec nous. Voilà, il est temps peut-être de prendre une deuxième série des auditeurs et puis on reviendra à vous. Notre invité, Richard, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à notre invité. Félicitations à Daniel, à Maître Omar et à Franck de Vienne parce que leur déclaration constitue l'introduction de mes propos de tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je peux enchaîner après cette introduction, parce qu'il y a multiplicité de textes, il y a mauvaise foi, il y a tout ce qu'ils ont dit là. Moi, j'ajoute que les victimes de la dictature d'hier sont devenues aujourd'hui les dictateurs. Ils s'appliquent ce que Mobutu leur faisait faire. Parce que ceux qui nous ont réveillés entre 5h30 et 6h du matin avant les informations, pour nous faire danser les djalélo, comme Daniel a dit, nous veulent faire entendre le fer de lance du pays qui était la JMP, aujourd'hui nous disent autre chose. Ce sont les plus arrogants qui passent sur les médias. C'est ça. Et qui nous apprennent à bien injurier les autres, à les minimiser, à cracher sur eux. Une presse qui est muselée comme ça n'est plus une presse, ça devient un chiffon qui ne peut pas développer le peuple.
Alors qu'est-ce que vous appelez, Richard, qu'est-ce que vous appelez une presse muselée? Une presse qui ne respecte pas la déontologie.
Vous ne pouvez pas donner l'information. L'information, c'est ce qu'on voit. Et on vous dit ce qui est blanc et vert. Vous devez dire c'est vert. Il ne faut pas dire que c'est blanc. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pourquoi X Radio X s'est fermé. Il y a une discordance dans la réalité et dans la vérité. C'est le plus de développement.
Donc vous soutenez, disons, ce que venait de dire tout à l'heure certains auditeurs, que aujourd'hui la régulation en RDC est politisée.
Mais justement, même si c'est politisé, là où c'est politisé, on vous donne une ligne éditoriale en rapport avec le développement de ce peuple-là. Quand c'est politisé, c'est par rapport au développement. Ce n'est pas par rapport à la
Réflexion. Quelle est la solution? Quelle est la solution selon vous? Quelle est la solution selon vous?
Pardon?
Quelle est la solution? Quelle serait la solution pour vous?
La solution, c'est écouter ce que Monseigneur Mosengo a dit à la CNS. Il y a beaucoup de mobutistes et des dictateurs dans la salle.
Merci beaucoup, Richard, d'avoir appelé. Merci.
Pour vous amender.
Merci beaucoup, docteur Richard, d'avoir appelé de Kinshasa. Dieu merci, vous êtes à Manono. Bonjour, Dieu merci.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Dieu merci.
Oui, vraiment, c'est être contre à la mesure, voir si c'est une scène de grâce.
Voilà, Dieu merci, on a des petits soucis, hein. On n'arrive pas vraiment à écouter vos propos. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être vous déplacer un tout petit peu?
Ça va, je me déplace un peu.
Voilà, oui, allez-y maintenant.
Oui, je disais ceci, je ne parle contre cette...
Oui, on a des petits soucis avec votre ligne, le temps que la réalisation nous aide à arranger cette ligne, on va... retrouver Jean-Marie Kassamba, qui est le président de l'INPC à Kinshasa, à la ville-province de Kinshasa. Monsieur Jean-Marie, bonjour. Monsieur Jean-Marie, vous êtes avec nous?
Je suis avec vous. Je m'excuse auprès de nos auditeurs. Je devais être présent dans les studios comme d'habitude. La situation rapide ce matin, le chef du gouvernement a prévu un point de presse. Comme vous savez, je suis le président de l'UNPC Kinshasa et que je suis moi-même responsable des médias. Je devais être à cette grande conférence qui vient à peine de se terminer ici à la Prémature. Mais je suis disposé à répondre à cette question, si vous le désirez.
Voilà.
En direct avec les auditeurs de Radio Capi.
Voilà, on a ouvert le débat autour de mécanismes de régulation des médias mis en œuvre en RDC. Fait, tout est parti de rapport de l'OMEC. L'OMEC qui parle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui est l'organe ou l'institution la seule habilitée à retirer la fréquence à une station de radio ou à une chaîne de télévision, ainsi que l'autorisation de paraître à un tabloïd. Mais ce n'est pas les constats qui sont faits sur le terrain aujourd'hui.
Écoutez, ce que je dois vous dire d'emblée est que notre métier, et là je parle comme président de l'Union de la Presse Nationale du Congo pour la ville de Kinshasa, la capitale, il y a la législation qui est d'application en la matière, et il y a aussi des mesures conservatoires et qui s'appliquent dans n'importe quel pays à travers le monde en termes de sécurité. Lorsque nous de la presse, nous exerçons notre métier, nous devons nous préparer à travailler dans l'optique de l'éthique et la déontologie professionnelle. L'optique de l'éthique, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse informer objectivement l'opinion sur base des éléments factuels, ce qu'on appelle les faits. Ensuite, nous devons préserver la paix. La paix veut dire nous ne pouvons pas attirer de la foudre sur nous avec de fausses informations, avec... de la manipulation de la presse, de l'opinion, etc. Nous devons aussi être conséquents lorsqu'il y a des décisions au niveau de l'État. Parce que n'importe quel pays est toujours régi par une législation. Je vous donne un exemple. Il y a à peine une semaine en France, nos collègues de Al Jazeera pour des raisons d'investigation, ils ont fait voler au-dessus de Paris des drones. Eh bien, nos confrères, au moment où je vous parle, sont en détention. Et on leur a même retiré leur carte de presse Al Jazeera en France. Donc, ça s'est fait autant ici en Afrique, mais également à travers le monde, aux États-Unis, avec le patriarcat, etc. Nous devons faire très attention de la manière dont nous faisons notre métier. Nous ne sommes pas des écrans libres, et nous ne pouvons pas, à chaque fois, épingler l'État. L'État qui doit faire son travail, mais également nous-mêmes devons faire notre travail. Avec une discipline et une application de la réglementation en vigueur.
Oui, mais c'est Jean-Marie Casamara, c'est que, en tout cas, les communs mortels ne comprennent pas. C'est vrai qu'on a donné cette attribution ou ces attributions au CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par les constituants, et surtout dans l'article 112 de la Constitution, qui est dit qu'il est institué un Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication doté de la personnalité juridique et qui a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication des masses dans le respect de la loi. Il veille donc au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. Mais pour l'instant, nous remarquons que l'État, au travers par exemple du ministère des médias, peut retirer aussi la fréquence, tout comme le ministère de télécommunications peut aussi d'ailleurs le faire. Alors, l'ANR peut aussi s'en mêler, alors étant d'autres services de sécurité. Alors, comment vous, quelle lecture avez-vous par rapport à ça? Voilà, on a des petits soucis avec notamment la ligne de Jean-Marie Casamara. Voilà, c'est ça les aléas du direct. Et puis, quand on est.
Je vous dis tout simplement que le CESAC fait le travail avec les prérogatives qui sont reconnues par la loi. Il y a l'État, il y a la prérogative également de la paix sociale, de non-trouble à l'ordre public. L'État doit sécuriser la population et, dans la complémentarité de ses actions, fait son travail, l'État fait le sien. Le journaliste aussi le leur. Moi, je ne conseille pas à l'État d'interférer dans les prérogatives du CESAC. Idem pour nous-mêmes, les journalistes. La confusion qui est faite souvent dans notre pays, c'est que les professionnels des médias, lorsque ils sont dans une situation inconfortable, ils s'arrogent le droit de faire tout et son contraire. L'État, quelquefois, outrepasse, en quelque sorte, ce qu'on appelle la liberté d'expression. Nous qui sommes des médias, nous qui sommes des BMTC, notre combat, c'est à la fois de protéger les journalistes, et moi je l'ai fait à plusieurs reprises, quand ils sont dans leurs droits, mais également de prévenir, de conscientiser les journalistes. Que notre métier n'est pas un métier d'opposition à tout va et à chaque fois quand cela n'est pas nécessaire. Nous devons faire notre travail dans le respect de la réglementation, en alertant, en informant et en essayant d'éviter des collisions inutiles.
Oui, monsieur Jean-Marie, oui, vous avez évoqué là le cas parfois des dérapages déontologiques, mais ça c'est d'une part, mais de l'autre côté, il y a aussi des sanctions irrégulières.
Oui, une sanction lorsqu'elle est régulière, elle est combattue, il y a des juridictions qui sont faites pour cela, et nous-mêmes, nous sommes le premier à contester cela, et je vous signale d'ailleurs que le journaliste de Molière qui a été incarcéré, moi je l'ai fait libéré, parce qu'effectivement, il y avait des dysfonctionnements. Un autre collègue, en l'occurrence, monsieur Elgezer, qui avait fait une altercation avec un colonel, je suis intervenu. Et la situation a été dégradée. Je peux vous donner d'autres exemples comme ceci.
Alors,
je signale par ailleurs qu'il est très important dans notre pays de séparer le militantisme politique avec le métier de journalisme. Il ne faut pas que ceux qui font du métier de journalisme pensent que la contestation veut dire faire du journalisme. Ça n'a strictement rien à voir. Nous sommes là pour donner de l'information. De dénoncer ce qui ne fonctionne pas, de dire des choses lorsqu'elles ne vont pas, mais lorsque nous n'avons pas des éléments factuels, nous n'avons pas de preuves de ce que nous avançons, nous sommes dans l'illégalité. Et moi, je protège tout journaliste qui est dans la légalité, qui fait son travail correctement. Il y a des journalistes qui ne sont pas, par exemple, habilités à fonctionner, qui n'ont pas les cartes de presse, qui n'ont pas l'autorisation de structures de tutelle, mais qui continuent à œuvrer, à fonctionner, comme si c'était le cas. Pardon, je ne pense pas que si ces journalistes sont épinglés par la loi, on va pouvoir les défendre. Si vous allez aux États-Unis d'Amérique, en France, en Chine, partout, il faut quand même un cadre réglementaire. Toutes les productions à l'État de ne pas être présent, c'est-à-dire la présence de l'État, l'autorité de l'État, la capacité de régenter les choses, mais en même temps, nous voulons fonctionner comme électrons libres. Ça ne peut pas être fonctionnel.
Voilà, alors,
moi, je suis là pour défendre les journalistes, et je le fais tous les jours, mais je conscientise tout le monde d'être à la fois professionnel, de faire son travail dans la règle de l'art, de sorte que nous ne soyons pas reprochables.
Alors, Jean-Marie, il y a une question qui est restée là. Il y a un auditeur qui a même écrit aujourd'hui, c'est vrai, la place des services de sécurité dans les traitements d'informations ou encore pour réguler les médias. Comment vous jugez-vous cela?
Il est inadmissible que les services de sécurité interviennent dans les traitements d'informations. Je suis le premier à dénoncer et surtout à contester que la police, les services de renseignement, je ne sais pas qui, puissent interférer dans la manière dont fonctionne la presse. La presse, elle fait son travail, c'est un pouvoir à part entière, il faut le laisser ce pouvoir faire son travail. Et c'est tout à fait clair et net. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait des collusions. Je ne parle pas de collusion, c'est-à-dire un mélange de genres. Il y a certains de ceux qui veulent être journalistes, qui se présentent comme tels, qui parfois, pour par militantisme, on ne dit pas qu'ils ont des affinités avec telle ou telle affaire politique, ils veulent tout mélanger. Tout mélanger, ça veut dire quoi? On associe telle situation à un homme politique, ou à un ADG, à un ministre, à un mandataire, alors qu'on n'a même pas de preuves. Notre métier est régi par de règles simples. Nous sommes là pour collecter l'information, traiter l'information, la diffuser, protéger la population, l'informer d'une manière objective, puisque moi, à titre personnel, je le fais à travers mes médias, et je le fais, et d'ailleurs, la plupart des gens qui nous félicitent, qui nous font parfois des remarques intéressantes, le disent dans ce sens-là. Mais c'est pas notre pays, c'est une démocratie naissante. Nous sommes un pays post-conflit, il faut qu'on puisse prendre des mesures d'apaisement. Nous sommes en ce moment dans une période qui tend vers les élections, il y a beaucoup de passion. Il faut que le journaliste soit
joue calme, le rôle, voilà, formidé.
Soit calme, voilà. Fasse son travail d'une manière positive,
voilà. Alors,
de manière à ne pas susciter des passions.
Voilà, Jean-Marie, nous vous gardons encore en ligne. Il est temps peut-être de déclarer un peu l'opinion sur les différents textes qui sont en vigueur aujourd'hui, la loi de 96 et aussi les dispositions légales au niveau de fonctionnement de ces sacs. Mais permettez-nous d'abord d'ouvrir la troisième série des auditeurs. On va ouvrir le standard 081-890-63-15 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Jérôme, vous êtes à Kananga, au Kasaï Occidental. Bonjour, Jérôme.
Bonjour, J.R. Bonjour aussi à tous les amis auditeurs de la radio Kati.
Vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup, J.R. de la parole. D'abord, mon point de vue, je vais les donner en termes de conseils, peut-être. Vous savez, au Congo, nous comprenons comment la démocratie ou soit la liberté de la parole. Là, je donne aussi. Bon, je parle d'abord de l'État. Vous savez, fermer une chaîne de radio, sanctionner, oui, c'est bien. C'est bien pour mettre en place faire exécuter les normes de la presse ou quoi que ce soit. Alors, vous savez, il faut aussi voir pour quelles raisons on peut fermer une chaîne de radio ou soit on peut sanctionner une chaîne de radio. Vous savez, comme Radio Kapi, là, je prends l'exemple de Radio Kapi, on fait une émission, parole aux auditeurs, mais c'est un auditeur qui appelle peut-être, qui a parlé en mal d'une autorité politico-administrative. Vous voyez qu'on arrive à fermer une chaîne de radio pour un auditeur qui a appelé dans une émission. Ça, c'est vraiment incompréhensible. Au lieu de sanctionner l'émission, ou soit sanctionner les présentateurs de l'émission, vous sanctionnez toute une chaîne de radio. Quand je suis en train de parler là, je crois que j'ai vraiment des preuves, parce que moi-même, je suis journaliste d'une chaîne de radio ici à Kananga. J'ai vraiment des preuves. Donc c'est vraiment déplorable. On doit comprendre la démocratie. On doit aussi comprendre dans quelle mesure, pour quelle raison on peut fermer une chaîne de radio. Il y a des lois, il y a des écrits, il y a vraiment des règlements. Alors on doit juger une chaîne de radio ou soit on doit sanctionner par rapport à des règlements qui sont mis en place.
Voilà, Jérôme, parce que vous êtes journaliste, aujourd'hui les débats tournent autour d'ailleurs de ces différents textes en vigueur. Il y a la loi de 96 et également les dispositions légales dans lesquelles fonctionne d'ailleurs le CESAC. Alors aujourd'hui, il y a certains qui sont d'avis qu'il faut uniformiser ces textes parce que le CESAC qui a le pouvoir de réguler les médias en RDC, mais de l'autre côté, il y a la loi de 96 qui donne aussi l'autorisation au tribunal de sanctionner par exemple un cas de dérapage déontologique. Alors vous, en tant que journaliste, est-ce que vous partagez l'avis selon lequel il faut uniformiser ce texte pour que qu'on fasse marche ensemble, c'est-à-dire sur le même chemin?
Sans commentaire, je pousse vraiment avec vraiment toute mon énergie, je pousse cette idée-là. Pourquoi? Parce que bon, un pays ne peut pas avoir de constitution. Alors, laquelle on va respecter? Alors, je demande que moi, il faut uniformiser les textes. En tout cas, c'est une très bonne idée pour que les États, les autres organes de contrôle de la presse puissent uniformiser leurs textes. Donc, que ce soit comme un règlement d'ordre intérieur du pays, que ce soit comme la constitution du pays qui doit être respectée par tout le monde. On doit aussi choisir qui doit sanctionner. Ce n'est pas tout le monde qui doit sanctionner. Si c'est l'État, oui. Si c'est l'État, oui. On doit choisir une personne, donc un organe qui doit sanctionner quand même. Là, je parlais aussi de l'État. Mais là, des chaînes de radio aussi, mes frères. Vous savez que dernièrement, les Katanga, on a averti les autres chaînes de radio parce que les journalistes commencent à faire des campagnes. Quand même.
Voilà, merci beaucoup Jérôme, on a compris comme vos prédécesseurs, il faut éviter que les secteurs soient politisés, c'est ce qui fait que voilà, on tombe sur ces erreurs de part et d'autre. Il y a les dérapages déontologiques et aussi des sanctions irrégulières. Merci. Richard, vous êtes à Ouvira. Bonjour Richard.
Bonjour Radio Kati, bonjour chers auditeurs de la Radio Kati.
Vous avez la parole Richard.
Oui, moi je voulais intervenir par rapport à la fermeture de cette chaîne à Kinshasa. Vu chez nous, quand même, il y a quand même une petite liberté d'expression. Je ne vois pas une chaîne qui est fermée au niveau d'Ouvira. Mais c'est à Kinshasa, là, on ferme beaucoup de chaînes parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'autorité. Et surtout qu'il y a plus que tout le monde qui prend la loi. Je vais donner un exemple comme celle de Lambert Mende lorsqu'il avait sanctionné Christophe Colomoni Dibou, l'ancien directeur de RTNC Kinshasa. Bon, ça nous a vraiment beaucoup piqué dans le cœur de voir une personne qu'on va les sanctionner par une autre personne au lieu d'être sanctionné par l'organe qui est censé de les sanctionner, notamment le CESAC. On ne sait pas alors si c'est même de qui devait le CESAC ou bien même a aussi le pouvoir de sanctionner quelqu'un. Mais on pense également que si c'était une chaîne privée, peut-être on devrait directement sanctionner la chaîne. Je suis d'avis de l'ami de Kananga qui a dit qu'il faut sanctionner l'émission ou l'individu, ou c'est ça qui peut demander seulement au directeur de la chaîne de sanctionner le présentateur de l'émission qui est sanctionné.
Merci beaucoup Richard. 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Jean-Marie Kassamba, réaction par rapport à cette série des auditeurs.
Écoutez, je dois seulement vous dire que nous avons un problème d'information, un problème d'initiation au sexe. Il y a dans notre pays beaucoup de textes qui existent et qui nécessitent tout simplement d'être appliqués. Beaucoup de nos collègues connaissent ces textes, sont au courant de ces textes, mais ne les appliquent pas souvent à dessein. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, certains ont des amitiés avec tel ou tel acteur politique, tel ou tel pasteur, telle ou telle personnalité. Et donc, parce que ces gens-là, ce sont les animateurs ou les responsables de ce genre de presse, nos confrères ont la faiblesse de vouloir servir les responsables de leurs médias. Moi, je sais que j'ai des conseils, même ici à Kinshasa. Il faut qu'on puisse faire notre métier en toute liberté et en toute responsabilité. Ça veut dire quoi, responsabilité? Vous êtes journaliste,
lorsque le responsable de votre média vous donne des instructions, diffusez telle information pour nuire à mon adversaire politique ou parce que nous avons telle cause, vous avez la possibilité de vous opposer à cela d'une manière polie. Tout simplement, c'est pas parce qu'on a des problèmes d'emploi, des problèmes de moyens, des problèmes de survie, qu'on doit dénaturer notre travail de journaliste. Moi, ici, actuellement, je ne mets pas pour les chaînes qui ont été sanctionnées, et je regarde au cas par cas pour résoudre ces problèmes, mais tout en conscientisant les journalistes. Il n'appartient pas à un ministre de sanctionner une chaîne. Non. Il y a la loi qui est faite pour cela. Il y a les structures de l'État qui sont faites pour cela. Mais il ne faut pas non plus que le journaliste donne des bâtons pour se faire battre avec. Lorsque vous dites, je vous donne un exemple simple. Monseigneur Mosengo a autant d'enfants, enfin, le cardinal aujourd'hui a autant d'enfants. Est-ce que vous êtes capable de le prouver? Non. Lorsque vous dites, il a été corrompu dans telle opération, est-ce que vous êtes capable de dire,
de présenter le preuve, ouais.
Et comment? Non. Je pense que, il est tout à fait capital dans une démocratie naissante comme la nôtre, que ceux qui veulent faire le travail des journalistes fassent un effort d'investigation. Descendent sur le terrain, cherchent les informations, les croisent, les traitent et diffusent.
Voilà, alors Jean-Marie, juste une question de curiosité parce qu'il y a un auditeur qui vient de nous envoyer ces messages là. Jean-Marie, lorsqu'il y a eu les événements du mois de janvier, nous vous avons vu réaliser une grande émission de débat sur la télé où vous avez invité Denis Sessanga et aussi Lambert Mende. Un débat qui était vraiment houleux. Mais s'il s'agissait d'une autre chaîne faire le même débat, on aurait peut-être retiré la fréquence. Parce que vous faites partie de la majorité. Que répondez-vous à cet auditeur?
D'abord, la réponse numéro un, je ne fais pas du tout partie de la majorité, je suis journaliste et je fais mon travail depuis plus de 30 ans. L'objectif, c'est surtout la pédagogie que j'avais adoptée pour cette émission, c'était de donner la parole. C'est notre métier de donner la parole aux uns et aux autres. Et vous avez remarqué dans cette émission que le ministre, même des porte-parole du gouvernement, est venu parler au nom de son gouvernement. Denis Sessanga, membre éminent de l'opposition et surtout auteur de la loi qui est en la matière, était venu. Les militants de Vital Kamerhe et l'INC étaient venus pour cela et le monsieur Dupalou était là. Et vous avez remarqué que durant toute l'émission, j'ai laissé la possibilité, pour ne pas dire l'opportunité, aux uns et aux autres de s'exprimer le plus librement possible. C'est comme ça, c'est ça notre métier, donner la parole aux gens pour qu'ils puissent croiser
voilà.
La vue, de sorte que voilà. Le débat l'emporte.
Voilà, je crois que notre ami Alexis de Bounia a eu la réponse. Voilà, a eu la réponse à son message. On va prendre rapidement en 30 secondes Maurice à Kinshasa et Freddy à Kamina. Maurice, bonjour.
Bonjour.
Oui, rapidement, on a pris assez de temps parce qu'on va revenir à Jean-Marie pour conclure. Maurice, en 30 secondes.
Que je n'ai jamais vu, j'ai passé en fait, ce qu'il est, en fait, l'Afrique et d'autres pays, je n'ai jamais vu une presse libre ou indépendante sous un régime dictatorial ou autoritaire. Et ces gens qui posent ces genres d'actes doivent comprendre que ces médias-là ont un personnel, ont des fonctionnaires. Les gens qui travaillent pour ces médias ont des familles. Lorsque vous suspendez, vous retirez, et de manière arbitraire, sans aucun respect des textes régissant le fonctionnement des médias, je pense que vous êtes en train de condamner à la misère.
Voilà, merci beaucoup de faire ce plaidoyer. Merci beaucoup, Maurice. Freddy, vous êtes à Kamina. Bonjour.
Oui, bonjour, Gilles. Bonjour, je salue les auditeurs, l'invité et tout le monde.
Voilà, en 30 secondes également, parce qu'on a fait assez de temps de voir. Désolé.
Quand même que le travail que la presse fait au Congo, c'est un bon travail. Mais c'est vrai qu'il faut unifier les textes, il faut les adapter. Mais n'oubliez pas aussi que le service, parmi les gens qui prêchent, il y a énormément de fanatiques. Il y en a qui ne sont pas professionnels. Je pense que c'est tout à fait normal qu'on puisse assainir
le secteur. Merci beaucoup.
Oui, justement. Mais sinon, nous comprenons que pour la presse d'une manière générale au Congo, en fait, il y a une certaine liberté qui s'est faite, mais il faut toujours voir dans quelle mesure ils vont travailler son sentiment.
Merci beaucoup, Freddy. Jean-Marie Kassamba, la RLTV, Canal Futur, RTCS, CCTV, aujourd'hui sanctionnés, en tout cas, ont été fermés. Qu'est-ce qu'on reproche à ces chaînes? Et quand est-ce que la solution sera trouvée? Parce qu'on a vu le CETA s'appliquer.
Je vais vous dire d'abord que il faut qu'on ait la honnêteté de dire que ce petit organe de presse, celui qui a les moyens logistiques, matériels, techniques pour donner du travail aux gens. La plupart des médias qu'on dit dans notre pays, ce sont des médias. Ce ne sont pas des médias, je m'excuse. Et tout le monde le sait, là sont ceux qui le disent. La plupart des journalistes qui travaillent dans ce média ne sont pas payés, n'ont pas de contrat de travail, il n'y a pas de matériel. Au-delà même de la ligne éditoriale qui n'est pas claire et correcte. Donc il faut qu'on puisse à la fois avoir des médias qui sont viables et crédibles. Et moi je me bats pour cela. C'est l'une des missions de l'UNPC Kinshasa d'identifier les vrais journalistes, les vrais organes de presse, qu'ils puissent avoir les moyens de donner du travail, du vrai travail aux gens, parce que déjà, la quantité chez eux, il faut qu'ils soient payés et vivent correctement. Et moi, je vais me battre pour que ceux qui sont viables soient réouverts. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons la possibilité dans notre pays d'avoir ce qu'on appelle le pluralisme médiatique. Nous avons plus de médias qu'au Congo-Brazzaville, qu'au Gabon, qu'au Rwanda, qu'en Angola, que dans beaucoup de pays à travers le monde. Et nous avons la liberté de dire ce que l'on veut sans qu'on soit brimé. Tout le monde est conscient de cela. Mais il faut qu'on puisse le faire aussi dans l'ordre, dans un certain professionnalisme à travers le Congo. Et moi, je me bats comme les autres, comme notre président national Chilundé, pour que demain, lorsqu'on parle de médias congolais, qu'on parle de médias crédibles. Pourquoi les médias étrangers qui viennent chez nous se moquent chez nous? C'est parce que nous mélangeons tout.
Voilà.
Donc, ici, à Kinshasa, ce qu'on appelle les moutons noirs, les brebis galeuses, gangrène ces métiers, il faut du nettoyage. Et nous allons voir qu'au fur et à mesure que nous allons faire un travail professionnel, on va avancer. Moi, je ne mets pas pour que les journalistes aient de bonnes conditions de travail. Il ne faut pas qu'on puisse dire, si le rôle du militantisme, qu'on a carte blanche, qu'on fait tout ce qu'on veut, y compris les mensonges, parce que ça s'appelle liberté de presse. C'est faux. Les occidentaux eux-mêmes, chez eux, ils ne permettent pas. N'importe quoi, il faut que dans notre pays, si nous voulons un bon développement,
il faut qu'on ait des médias. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC, ville-province de Kinshasa. Merci d'avoir accepté notre invitation, quoi qu'en retard, votre intervention dans cette émission. Mais je crois que nous avons
le
voilà, donc nous vous remercions pour cela. Merci également à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de ce programme. Pierrot Elamegi et Julie Feza Bongonda l'ont réalisé et Gire Mungembo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Lola Moulamba. On se retrouve demain dans un autre débat. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. À très bientôt.